Le journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le suicide arme politique. Irina Slavina, journaliste russe d'un site d'opposition à Nijni Novgorod, s'est donné la mort au lendemain de la perquisition de son domicile. Précision dans un instant de Thomas Giraudeau. Un congrès annuel des Tories très inconfortable pour Boris Johnson, correspondance de Londres de Richard Place. Au procès des attentats de 2015 en France, à la barre cet après-midi, un témoin clé que les partis civils auraient bien vu dans le box des accusés, Farid Benyettou, de la filière dite des Buttes-Chaumont, proche, très proche des frères Kouachi. Charlotte Pirel a rencontré. Enfin, à l'affiche de la bulle économique de Marie Viennot, le projet de loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement. Je vous demande de rendre responsable de ma mort la Fédération de Russie. Cette phrase épitaphe postée sur Facebook par Irina Slavina, sans équivoque, dit dans quelle situation la rédactrice en chef du site Causa Press se trouvait au moment de prendre sa décision de s'immoler par le feu devant le quartier général de la police de Nijni Novgorod. Bonjour Thomas Giraudeau.
Bonjour.
Thomas, peut-être commençons avec vous par présenter aux auditeurs notre consoeur et son travail.
Irina Slavina écrivait sur les violations des droits de l'homme en Russie, osait critiquer Moscou et les autorités locales de sa ville, Nijni Novgorod. Ses articles sur Causa Press lui ont valu des démêlés avec la justice, comme nous le détaille Pavel Chikov. Il dirige Agora, le groupe d'avocats russes qui défendait Irina Slavina.
Elle était poursuivie pour avoir publié et relayé une information considérée comme fausse par les autorités au sujet du coronavirus. Elle a également dû payer une amende pour avoir lancé un appel à une manifestation contre le pouvoir local. Et puis, elle est accusée d'être membre de l'organisation Russie ouverte, considérée comme une menace pour l'ordre public. C'est un crime ici en Russie.
Et c'est pour ses liens présumés avec ce mouvement d'opposition fondé par l'ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky que la police a perquisitionné son appartement jeudi, emportant avec elle ses carnets de notes, son ordinateur, son téléphone, ainsi que ceux de son mari et même de sa fille, Pavel Chikov.
Elle pensait depuis quelque temps commettre une forme de suicide politique, de protestation. L'été dernier, elle en avait déjà parlé sur son compte Facebook. Mais c'est l'aggravation de sa situation, les pressions de plus en plus fortes sur elle depuis plus d'un an qui l'ont poussée à mettre fin à ses jours. Je n'ai aucun doute sur le fait que le gouvernement et les autorités sont responsables de son suicide.
La police réfute tout lien entre la perquisition et l'immolation d'Irina Slavina le lendemain. La journaliste de 47 ans n'était qu'un témoin dans le cadre de cette enquête. Mais son suicide a provoqué évidemment une onde de choc en Russie et ailleurs. Depuis Berlin, l'opposant russe Alexei Navalny a dénoncé, je cite, « une affaire montée de toute pièce contre Irina Slavina ».
Merci à vous Thomas Giraudeau. Et justement au sujet d'Alexei Navalny, ces déclarations en fin de matinée du chef de la diplomatie allemande selon lequel il n'est plus possible d'éviter des sanctions contre la Russie, des sanctions ciblées et proportionnées, précise Heiko Maas. La Russie, qui fait partie avec la France et les États-Unis des nations avec lesquelles l'Arménie se dit prête à mener une médiation pour mettre un terme au combat, toujours très violent, au Nagorno-Karabakh. Stepanakert, sa capitale, était de nouveau abondamment bombardée hier par les forces azerbaïdjanaises. L'administration Trump prend soin de faire publicité du traitement suivi par le président sortant, hospitalisé dans un établissement de la banlieue de Washington, après avoir été contrôlé positif au coronavirus. Donald Trump souffre, selon les communiqués de la Maison-Blanche, de fatigue, mais garde le moral. Bonjour Loïc Loury. Loïc Loury, vous êtes en direct de Washington. Loïc, que sait-on,
bonjour,
que sait-on au juste de la santé du président des États-Unis?
Eh bien, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump est resté silencieux 18 heures sur le réseau social Twitter, autant dire une éternité pour le président américain. Il a finalement posté deux messages, une courte vidéo d'abord où il apparaissait en bonne santé hier soir, juste avant de partir pour l'hôpital Walter Reed. Et puis, ces quelques mots, je pense que ça va, merci à tous, amour en lettres capitales. L'objectif, bien sûr, c'est de rassurer ses électeurs, mais encore les marchés financiers agités après l'annonce de sa contamination. Donald Trump est donc désormais hospitalisé près de Washington. Il s'est montré masqué, rejoignant son hélicoptère dans l'après-midi. Ce séjour devrait durer quelques jours, d'après sa porte-parole. Il a été décidé dans un souci d'extrême prudence, selon son entourage, qui assure que le président va continuer à travailler depuis l'hôpital.
Loïc, Donald Trump est désormais sous traitement.
Oui, absolument, notamment à l'aide de Remdesivir. C'est un médicament qui a été autorisé en urgence en mai dernier, qui est en train de remplir les caisses du laboratoire américain Gilead, un traitement moins controversé que l'hydroxychloroquine, mais pas une panacée pour autant. Normalement, il est administré aux patients avancés et permet, d'après les statistiques, de réduire la durée des séjours à l'hôpital, mais pas vraiment la mortalité face au Covid-19. Donald Trump s'est vu prescrire du zinc, de la vitamine D ou de l'aspirine. Il a aussi reçu plutôt un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse, prometteur mais peu testé. Pas besoin en revanche de suppléments d'oxygène, dit-on pour l'instant. Reste que son état précis nous est inconnu. Le président continue à souffrir de fatigue, mais il a le moral, disait hier son médecin. Les bulletins de santé du président, confinés à un mois tout pile de la présidentielle, vont désormais rythmer cette fin de campagne.
Merci à vous, Loïc Loury, en direct de Washington. Popularité en berne pour Boris Johnson, en berne intramuros. Le Premier ministre britannique, qui ne fait plus l'unanimité dans son propre camp, pourra aujourd'hui prendre la mesure de la disgrâce qu'il endure à la faveur du congrès annuel des conservateurs, qui se déroule intégralement en ligne. Boris Johnson va devoir donc reconquérir une partie de sa majorité déçue par ses derniers mois de gouvernance. Londres, Richard Place.
Ils ne retrouvent plus celui qu'ils ont adoré. La love story entre Boris Johnson et sa majorité n'est plus aussi idyllique. Selon les députés conservateurs, la faute à un Premier ministre qui s'enferme, se recroqueville, qui méprise le Parlement, pourtant a priori tout acquis à sa cause. Ces derniers mois, Bojo s'appuie sur les conseils de quelques proches, quelques ministres, et surtout son âme damnée, Dominic Cummings, un conseiller spécial, parfois décrit par ses opposants comme un Premier ministre bis. Les restrictions locales et même générales au Royaume pour lutter contre le Covid, c'est le 10 Downing Street qui les a décrétées. Le Parlement n'a même pas été consulté. Changer les règles du jeu dans les négociations du Brexit et prendre le risque de violer un traité international, là encore, les députés n'ont pas eu leur mot à dire. Sur ce dernier sujet, tous les anciens premiers ministres encore en vie ont condamné le choix de Boris Johnson, même ceux de son propre camp, Theresa May, David Cameron et John Major. Et puis, il y a les sondages. Les travaillistes n'existaient plus en début d'année, ils sont désormais égalité avec le parti au pouvoir. Bojo vit jusqu'ici une très mauvaise année 2020.
Au procès des attentats de janvier 2015, audience exceptionnelle ce samedi en raison du retard pris dans les auditions de témoins. Et l'un des témoins du jour est d'ailleurs très attendu. Il s'agit de Farid Benyettou, ancien mentor des frères Kouachi, condamné avec Chérif Kouachi dans le procès dit de la filière des Butte-Chaumont. Farid Benyettou se dit aujourd'hui repenti, mais plusieurs avocats des parties civiles estiment qu'il aurait dû se trouver parmi les accusés de ce procès. Il a accepté de livrer son récit à Charlotte Piret.
Farid Benyettou a été proche des frères Kouachi, très proche même. C'est lui qui les a initiés à l'islam radical vers 2004, dans ce qu'on a appelé la bande des Butte-Chaumont.
Dès le départ, j'avais affiché mes positions pro-djihadistes. Donc ils avaient trouvé chez moi une pratique un peu rigoureuse de l'islam, ce qu'ils cherchaient à ce moment-là. Et Chérif m'a expliqué par la suite que c'est lorsqu'il entend justement que certains jeunes du quartier sont partis en Irak, que je joue un lien un petit peu dans tout ça. C'est là où vraiment il veut absolument me fréquenter, rester avec moi le plus que possible.
Mais à la veille de ce départ vers l'Irak, la filière est démantelée. Chérif Kouachi et son mentor interpellés puis condamnés. À sa sortie de prison, Farid Benyettou prend ses distances avec l'idéologie djihadiste, passe un diplôme d'infirmier, mais fréquente encore occasionnellement Chérif Kouachi jusqu'à quelques semaines à peine avant les attentats.
Ça, c'est quelque chose avec quoi je vis tout le temps, hein, cet attentat-là. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai commis, c'est sûr. Mais les gens qui l'ont commis, c'est moi qui ai contribué à les former au djihad, qui les a renforcés pendant des années à cette idéologie. Donc forcément, bien sûr que j'ai une part de responsabilité, ça c'est évident.
Aujourd'hui, Farid Benyettou, qui se dit repenti, doit être entendu comme témoin, un témoin que beaucoup auraient aimé voir dans le box des accusés.
Le parquet ouvre une enquête pour dégradation à caractère raciste après le saccage dans la nuit de jeudi à vendredi d'un restaurant cachère du 19e arrondissement de Paris. Des croix gammées ont été dessinées, des inscriptions « sale juif » ou encore « Hitler avait raison » ont été inscrites sur les murs de l'établissement. Une trentaine de militants écologistes interpellés sur un tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont répondu à l'appel des collectifs ANV COP21 et Alternatiba qui ont appelé une journée nationale d'action pour réclamer la diminution du trafic aérien et la reconversion de ce secteur. Une centaine de maisons emportées ou alors sont en partie détruites ou endommagées. Les intempéries dans le sud-est, pluies diluviennes et crues brutales, ont laissé quantité de villages coupés du monde où des centaines de pompiers sont mobilisés ce samedi pour retrouver 8 personnes portées disparues. Charles-Ange Ginesi est président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Ce matin, nous essayons de regarder ce qui n'était pas possible de voir hier soir sur le plan de l'état des routes, sur le plan de la circulation, pour permettre de rentrer sur les personnes qui peuvent être en difficulté, qui peuvent avoir besoin d'aide, pour aller dans les endroits où il y a des hameaux qui sont restés isolés. Et puis les dégâts sur les infrastructures qui sont des dégâts colossaux, qui vont nécessiter beaucoup de moyens. Et nous avons eu une visio avec le ministre de l'Intérieur ce matin à 8h. Et on sollicite bien évidemment les moyens de l'État, les plus importants possibles, les moyens de la région.
Et ces mêmes intempéries ont causé un mort et 11 disparus dans le nord de l'Italie.
La bulle économique, Marie Viennot.
Marie, ce samedi, vous nous entretenez du projet de budget pour la sécurité sociale présenté cette semaine par le gouvernement. Un budget exceptionnel à bien des égards, moyennant des économies pour l'assurance maladie.
Au début du confinement, ils ont été applaudis. Récompensés d'abord par des médailles, puis par des primes. En juin, soignants et soignantes se sont à nouveau retrouvés dans la rue pour dénoncer l'insuffisance des moyens prévus par le Ségur de la Santé. L'été est passé et l'heure est venue de faire les comptes. Le gouvernement a présenté son projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, et il est donc possible de mesurer si la crise du Covid-19, nos applaudissements et les discours sur la santé qui n'a pas de prix ont oui ou non changé la donne. En une phrase, est-on sorti d'une logique d'économie pour les hôpitaux et l'assurance maladie? Oui, enfin, peut-on se dire quand on regarde les dépenses de santé. Elles sont passées de 200 milliards en 2019 à 215 en 2020 et 224,6 milliards prévus en 2021. Ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a les dépenses liées au Covid, mais aussi parce qu'on augmente de 183 euros par mois tout le personnel hospitalier et des EHPAD et qu'on investit 6 milliards dans les établissements de santé. Est-ce suffisant pour compenser 10 ans de sous-investissement et rendre à nouveau attrayants les métiers du soin? La plupart des syndicats hospitaliers en doutent. Mais ce qui les inquiète, au-delà de tout, c'est qu'on n'a pas changé de logique. Ce PLFSS, comme les précédents, prévoit des dépenses inférieures aux besoins anticipés. Car toujours, l'assurance maladie doit faire des économies. 4 milliards d'euros sont prévus en 2021. Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics.
Économie habituelle en matière de régulation, d'organisation des soins, économie qui évidemment ne nuise en rien à la qualité du service et à l'organisation des soins sur le territoire.
Les mesures d'économie prévues pour l'an prochain ne sont effectivement pas nouvelles dans leur nature. On les retrouve dans tous les PLFSS votés ces dernières années. Des économies sur, je cite, la pertinence et l'efficience des arrêts de travail et des transports. Des économies sur la maîtrise des prescriptions faites par les médecins, sur la kiné, les infirmières, les analyses biologiques. Des économies encore sur la structuration de l'offre de soins, structuration qui peut se traduire par des fermetures de lits, d'hôpitaux et disent les syndicats, une pression à la productivité incompatible avec le désir des soignants de s'occuper des patients en fonction de leurs besoins et pas d'indicateurs chiffrés d'efficience. Ces économies, réagit une pneumologue du collectif Interhôpitaux, c'est la preuve que le logiciel du gouvernement n'a pas changé. Il plane toujours très loin du terrain. Pourquoi ne pas avoir mis ces économies sur pause l'an prochain, s'étonne un représentant de FO, puisqu'on débloque des moyens pour les salaires et l'investissement. À cette question, le gouvernement répond qu'il n'y a pas de contradiction. Efficacité, efficience, maîtrise médicalisée des dépenses, retrouver ces mots dans un budget ne devrait pas effrayer ni choquer, même en pleine crise sanitaire, car les économies ne sont que le résultat de notre capacité à mieux gérer. De l'efficacité naissent les économies, voilà pourquoi le budget en prévoit. Mais elles ne sont pas un objectif en soi. Enfin, pas encore, Olivier Véran, ministre de la Santé.
L'heure n'est pas venue d'écrire dans le marbre de la loi des mesures extrêmement strictes ou extrêmement chiffrées. Par contre, on vous donne l'intention qui est la nôtre, la sécurité sociale. Paye ses dettes et met tout en œuvre pour retrouver l'équilibre.
Tout sauf une chose qui pourrait aider, prévoir des recettes en lien avec les besoins sanitaires et les dépenses correspondantes. De ce côté-là, rien n'a été envisagé. Crise économique oblige, l'heure est au contraire à l'exonération des cotisations sociales. Ne pas augmenter les prélèvements, c'est un choix politique d'avant Covid. Il perdure après. Le trou de la Sécu n'en sera que plus profond. Plus profonde aussi sans doute les mesures qui viendront une fois le pic de la crise surmonté et la colère ou le désarroi de ceux et celles qui espéraient que dans le monde d'après, les slogans pourraient peut-être changer.
Ainsi se referme la bulle économique de ce samedi. Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo. De nouvelles pluies dans la soirée sur de nombreuses régions. Le vent d'ouest à sud-ouest deviendra assez fort à fort avec des rafales de 70 à 90 km/h en général. Il neigera sur les Pyrénées et sur les Alpes au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique Jean-Guy Linmège.